BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, on sera avec Jean-Pierre Villaret, le président de June 21, transfuge de la pub qui vient de rejoindre Capgemini. On s'intéressera aussi au Snackable Content avec Fabien Gagnot, fondateur du Snackable Content Award, et Yann Pajam, directeur général d'Origifool. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Flora Bonvicini, responsable communication et marketing de TNP Consultant. HebdoCom, ça commence tout de suite, comme chaque semaine, avec les News.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne de la rédaction de BFM Business. Marie, vous avez retenu cette semaine le premier film de marque de Sergent Major.
Et la marque pour enfants fête ses 30 ans et à cette occasion, elle dévoile un film d'un peu plus d'une minute trente. Sergent Major fait donc appel à des enfants, des petits qui débordent d'imagination et qui illustrent très bien la signature de la marque, des histoires plein la tête.
Le loup, lui, il avait un masque et un tuba
et son maillot de bain.
Il plonge, après il creuse.
Après, ils ont encore creusé, ils ont vu le trésor.
Il ouvre le coffre, clic-clic, il s'est ouvert.
C'est quoi ce drôle de truc qui bouge?
Une grenouille.
On avait un petit problème.
La grenouille faisait coin, coin.
Et les autres, ils ont croyé même pas leurs yeux. Ils ont dit, non mais toi, t'es viré.
La campagne est signée par l'agence Score DDB.
Bon allez, on va reprendre un peu notre sérieux parce que là on change carrément de ton. Nouvelle campagne print pour la Fondation Abbé Pierre.
Et oui, avec trois images de personnes en difficulté, trois regards accompagnés à chaque fois d'une phrase choc. Par exemple, sur l'une d'entre elles, on peut lire « Elle rêve de fuir la misère, merci de ne pas fuir son regard ». Sur une autre, il est écrit « Il a vu la guerre, la faim, la noyade, merci de le voir comme un homme ». Des affiches qui interpellent et signées Altman Pacro.
Et puis dans un tout autre genre, une pub controversée, encore une fois, cette fois c'est Dolce & Gabbana qui a été contraint d'annuler son défilé à Shanghai, Marie.
Elle mettait en scène une jeune chinoise qui tente de manger des spaghettis ou une pizza avec des baguettes, sauf que la publicité a été considérée comme dégradante par les internautes. Résultat, plus de 120 millions de commentaires sur les réseaux sociaux. Dolce & Gabbana a dû s'excuser et annuler son défilé. Depuis, des sites chinois de e-commerce ont même décidé de boycotter la marque.
Et puis Lexus a publié cette semaine, et c'est une grande première, une publicité conçue avec une intelligence artificielle, Marie.
La machine a compilé toutes les publicités primées pour des voitures de luxe de ces 15 dernières années. Et c'est donc elle qui a entièrement écrit le scénario de la publicité. On y voit des images futuristes, une Lexus autonome sur une route, un panorama, un crash test. Le tout sous les yeux d'un ingénieur inquiet qui regarde le véhicule qu'il a construit passer ses différentes étapes. À l'arrivée, on tombe donc sur un spot un peu étrange, censé parler de l'intuition humaine. Et je vous avoue qu'on n'a pas tout compris.
Non, en effet, Marie, on n'a pas tout compris. Et vous, Frédéric ?
Moi, j'ai rien compris du tout, si ce n'est que ça laisse encore de belles années pour l'intelligence humaine. Pas si mal, quand même.
Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Moi, j'aime bien. Merci, Marie. On vous retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
L'invité de la semaine, Jean-Pierre Villaret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de June 21, racheté par Capgemini le mois dernier. Vous avez un passé de publicitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer chez l'adversaire?
Pourquoi l'adversaire? Il y a deux choses. Je crois qu'on peut plus faire ce métier, enfin le métier que je fais, sans data et sans techno. Et si vous avez un peu de souvenirs, rappelez-vous, Publicis a acheté Sapien, 3,5 milliards. Oui. Hein, il y a 3 mois à peine, IPG, donc Interpublic, a acheté Axiom, 2,5 milliards.
Voilà, ça se met dans ce rythme, mais on serait plutôt attendu pour le coup à ce qu'un Capgemini achète une agence plus traditionnelle que June 21. Pourquoi est-ce que alors évidemment c'est faudrait peut-être demander à Capgemini, mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi vous plutôt qu'une agence?
D'abord parce que je suis pas une agence traditionnelle, c'est-à-dire que j'ai été une agence traditionnelle quand je dirigeais Young ou plus tard de Villaret, mais on est déjà basculé ailleurs. On était dans l'accompagnement des clients dans la transformation digitale et surtout sur les conséquences de la transformation digitale sur leur business, parce que Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est plus un problème de style. Voilà, de tête, hein, je crois qu'à peu près, alors c'est des dollars, mais à peu près un trillion de dollars qui sont dépensés en marketing et en communication. Il y en a à peu près 290 qui sont en digital, qui font l'essentiel de la croissance. La vérité, c'est que ça ne marche pas.
Ouais.
Donc la vérité, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Et les clients, aujourd'hui, sont en recherche de croissance. Mmh. Donc tout le monde cherche la solution idéale, étant entendu qu'on se pose la question, en fait, de la répartition entre les mass médias et les médias digitaux. Donc on commence à se dire que le basculement s'est peut-être fait trop rapidement,
ouais,
qu'il y a des réglages à faire, etc. etc. Et donc, on n'a pas besoin d'agence de pub pour faire ça. On a besoin d'avoir des stratèges. Mmh. Et donc, quelque part, je considère que mon métier depuis toujours, ça a été d'accompagner les clients pour essayer d'abord de leur faire gagner de l'argent, si possible avec des bonnes campagnes. Donc j'en ai fait quelques-unes. Et maintenant, aujourd'hui, on essaye d'accompagner les clients dans la compréhension à la fois de la techno et des data, ce qui est très important. Mmh. Très important, oui.
Mais tout ça est quand même globalement capté par trois acteurs, on va dire Facebook, Google,
ouais,
Amazon.
Ouais.
Il y a une place pour autre chose?
On va voir ce qu'ils vont devenir. À l'heure actuelle, il y a tout un tas de débats autour de la valeur, l'audience.
Mm. Hein,
est-ce que l'audience de ces acteurs majeurs, elle est réelle? Certains d'entre eux sont déjà en train de se repositionner. Hein. Si vous regardez plus près Google, vous voyez Google est en train de faire autre chose. Amazon, c'est formidable jusqu'à maintenant. Est-ce que le jour où Amazon fera vraiment la publicité comme les autres, est-ce que l'audience d'Amazon, est-ce que l'acceptation des clients d'Amazon sera la même? Quant à Facebook, on a tous suivi une année catastrophique. Donc
Oui, mais j'ai pas l'impression pour autant que ça baisse beaucoup, qu'il y ait eu comme ça des annonceurs qui se soient retirés de chez Facebook ou autre d'ailleurs.
Des grands, je sais
on
pas,
entend,
on connaît un annonceur Procter qui a décidé brutalement 175 milliards et qui comme par hasard a fait un trimestre positif. Tout explique, enfin on peut tout expliquer. La vérité c'est qu'il y a quand même un truc au départ qui est que mon métier au départ, donc, c'est d'essayer de réfléchir non pas aux marques. Il se trouve qu'on parle de marques, hein, mais réfléchir à un système. Quand j'ai commencé la publicité, j'ai eu de la chance. J'étais dans une agence qui est la première mondiale. On était les rois de la télé. Ça faisait des ventes partout. On nous donnait 100, on rendait 150, on prenait 15 au passage. Tout allait bien. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. On est dans un monde dans lequel les annonceurs donnent de l'argent. Ils savent pas très bien ce que devient cet argent. Alors, on sait que quand on met 100 dans le digital, il en arrive des fois. Alors, certains disent 15. D'autres 25 parce qu'entre il y a de l'audience qui est pas bonne, des bots qui sont pas là, enfin des robots, il y a la manière dont on reçoit les messages qui est pas bon, etc., etc. Mais il y a aussi un problème, c'est est-ce que les contenus qu'on poste sont les bons? Hein, quand on voit que Facebook décroche à partir de 3 secondes, ou vous dit à partir de 3 secondes, vous avez vu le message, vous avez vu des publicités sur Facebook où dans les 3 premières secondes on dit quelque chose, on dit la marque,
non,
n'importe quoi.
C'est un peu court, ouais. Mais alors du coup, en quoi les cabinets de consulting sont mieux placés que les groupes publicitaires face à ce problème?
Attendez. À l'heure actuelle, personne n'est placé. Hein. Tout le monde est en devenir. Je pense qu'il y a une hybridation qui va se faire dans tous les sens.
Vous rejoignez ce que dit Arthur Sadoun à un moment.
Oui, Arthur, oui, mais Arthur, d'abord, attendez, Arthur, il fait des prévisions, on verra. Dans ces prévisions, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut quand même constater et accepter que Maurice Lévy, le premier, a pensé acheter Sapient.
Oui.
Hein, Arthur a dit, si j'ai lu correctement la presse, que ça avait été terrible. Comme mariage, ouais, qu'ils ont laissé des plumes, mais qu'aujourd'hui, enfin bon. Donc la vérité, c'est que ils avaient vu qu'il fallait intégrer des technologies digitales ou au moins des experts en techno. Après, qui achète qui ou qui fusionne avec qui, bah il faut se pencher sur la bourse, regarder les cours de bourse et comprendre. Vous avez d'un côté, moi je travaille beaucoup avec les États-Unis, hein, et j'ai un de mes plus gros clients qui est en Angleterre, mais c'est intéressant. Je rentre là des États-Unis. Des gens comme Adobe. Vous voyez, Adobe, c'est Photoshop. Hein.
Oui. Alors,
Adobe, enfin, entre autres. Adobe, ça pèse à peu près une dizaine de milliards en bourse. Hein. Pardon, une dizaine de milliards de chiffre d'affaires, ça fait 120 milliards en bourse.
Mmh.
Hein. 120 milliards en bourse de dollars. Les groupes de com, le plus élevé, il doit être à 22, 23. Mmh. Vous allez acheter des startups. Alors, on oublie ça aussi, c'est que ce qu'on appelle les technologies marketing, les MarTech, qui au passage, si vous demandez, Gartner qui vient de sortir dit les annonceurs, le budget marketing des annonceurs sur 100, ils vont mettre 29 en technologie marketing,
ouais,
et 23 en paid media. Ça veut dire que ils vont dépenser plus d'argent dans les technologies que dans les médias.
Quand même, ça pose question, ouais.
Hein. À l'intérieur des technologies, il y a ce qu'on appelle les MarTech et les AdTech. AdTech, c'est les technologies de ciblage, chères aux agences. Et les MarTech, c'est les technologies de marketing, de suivi, avec tous les outils pour contrôler les réseaux sociaux, etc., etc. Il y a à peu près 6000 boîtes là-dedans. 6000 entreprises. Un directeur marketing peut être soumis à 6000 coups de téléphone pour lui proposer un produit ou un service. Il y a une concentration qui s'opère. Vous regardez, ils appellent ça des suites marketing maintenant. Vous regardez du côté de Adobe, vous regardez Oracle, vous regardez Salesforce, etc. Ils proposent maintenant à un directeur de marketing, voilà, vous avez toute la palette là. Et puis ils en rajoutent, ils rachètent des boîtes. C'est à coût de 6 milliards maintenant. Ils rachètent des boîtes et ils viennent même de racheter, les derniers, je crois que c'est Adobe, ils viennent d'acheter contrôler ou produire du programmatique, de l'achat programmatique. Donc on voit bien qu'il y a une montée énorme de la part de, bon, au milieu de tout ça, il y a quoi? On a des agences, entre guillemets, de communication qui doivent bouger, c'est évident, hein. C'est même dramatique parce que il y a une crise de confiance réelle pour tout un tas de raisons. De l'autre côté, vous avez une audience au niveau des supports qui est pas terrible, qu'on peut pas contrôler. Vous avez une presse ou des médias de masse qui n'ont plus les subventions, la publicité ou les trucs de la publicité qui souffrent. Donc là aussi, il y a un problème. Au milieu de tout ça, vous avez des annonceurs qui disent, mais on n'y arrive plus. On n'a pas de croissance. Il y a une enquête aussi récente, toujours Gartner, qui dit à peu près 58% des CEO veulent de la croissance. La première raison, ils veulent de la croissance. Et la deuxième raison, ils veulent de la techno. En gros, ils pensent que c'est pas fou, hein. Ils vont arriver les IoT, ils vont arriver la data, ils vont arriver... Ils veulent la croissance. Après, on va dire, bah, la publicité est morte. Mais quand on regarde de plus près, c'est intéressant. D'abord, c'est pas la publicité qui est morte, c'est peut-être l'industrie, hein. Mais le deuxième point, qui est le point plus important pour moi, c'est que, quand vous regardez de plus près, vous dites, mais, quels sont les gens qui marchent? Quels sont les gens qui, bon, on dit, bah, quand même, dans les enquêtes, il y a Amazon, hein, et puis il y a Google. Amazon et Google, c'est deux boîtes IT, au départ. Vous savez quels sont, quel est le 10e annonceur mondial? Amazon, annonceur. Ils mettent 5 milliards.
Hein. Ouais,
et le 11e, c'est Google. Ça veut dire que ces gens-là qui viennent d'ailleurs, mais qui ont déjà intégré en amont ce que j'évoque, hein, la techno, les data, ils sont en train d'utiliser les mass médias. Et tôt ou tard, il faudra utiliser les mass médias. Et tôt ou tard, il faudra des publicitaires, ce que j'étais il y a quelques temps, pour trouver des idées.
Bon, mais on comprend mieux pourquoi vous avez rejoint Capgemini et pourquoi Capgemini.
On a choisi, oui, vous avez raison.
Vous avez choisi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Villaret. On pourrait vous écouter des heures, président de June 21.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
L'édito de la semaine avec Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors justement, on parlait d'Amazon il y a quelques instants. Amazon vient challenger de plus en plus Google et Facebook sur le marché de la pub en ligne. Le sujet est d'ailleurs dans la tête des annonceurs qui doivent cependant apprendre à se servir des outils d'Amazon, Simon.
Et oui, et du coup, il y a un nouveau type de job qui est visiblement en train d'émerger chez pas mal d'annonceurs responsables de la stratégie sur Amazon, à la fois en termes de com et de e-commerce, un poste d'expert chargé de gérer l'image de la marque et la stratégie marketing et ensuite de piloter le travail avec l'agence qui va se charger de l'achat des mots-clés ou de la gestion des data. C'est le média spécialisé DigiD qui consacre une enquête sur le sujet cette semaine. Et toute la difficulté en ce qui concerne Amazon, c'est donc qu'on n'est pas uniquement dans un enjeu publicitaire d'achat de mots-clés, de données comme sur Google ou Facebook. La stratégie d'une marque sur la plateforme de e-commerce doit allier expertise de com et expertise de vente. C'est un territoire qui est encore en train d'être défriché, d'autant qu'il faut rappeler que l'offensive d'Amazon dans la pub est assez récente. Ces outils publicitaires ne sont pas aussi bien maîtrisés que ceux de Google ou Facebook. Comment fonctionne l'algorithme de recherche d'Amazon? Que sait-on du comportement d'achat des internautes sur le site? Comment gère-t-on une page produit sur Amazon? Comment gérer les commentaires des clients? Comment fonctionnent les outils d'achat d'espace en programmatique sur Amazon, quelle est la bonne stratégie de prix, de promotion, etc. Donc à la fois chez les annonceurs et dans les agences, on cherche à construire en ce moment cette expertise. Plutôt cette année, par exemple, Publicis Media a lancé sa plateforme dédiée à l'achat média sur Amazon. Et tout ça, ça alimente une guerre des talents avec en toile de fond la question fondamentale de savoir si ces postes d'experts Amazon doivent se retrouver chez les annonceurs ou dans les agences.
C'est d'autant plus important que la pub est en train d'exploser sur Amazon, quoi.
Oui, on peut redonner quelques chiffres, hein. C'est vrai qu'on en parle souvent ici. 73% des agences disent qu'elles vont augmenter leurs dépenses pub sur Amazon l'an prochain. Le cabinet eMarketer a récemment relevé de manière très forte, hein, ses prévisions de recettes pub sur le site pour cette année. On va s'approcher des 5 milliards de dollars aux États-Unis. C'est plus de 4% de part de marché, ce qui fera voilà vraiment d'Amazon le troisième acteur derrière Google et Facebook. Lors de ses derniers résultats trimestriels, Amazon a affiché une hausse de 122% de ses revenus dans la catégorie autre, qui correspond essentiellement à ses recettes publicitaires. Et dernière preuve de cette ambition, on l'a eu avec l'annonce il y a quelques jours de l'installation du nouveau siège, d'un des nouveaux sièges d'Amazon à New York, dans le Queens, une manière évidente de se rapprocher de l'épicentre du secteur de la pub aux États-Unis.
Merci Simon Tellenbaum.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le Zoom du jour, aujourd'hui on apprend un nouveau mot, le snackable content. Bonjour Fabien Gagnot.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de The Source et des Snackable Content Awards, c'est pas facile à dire. Et Yann Padjam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vidéo content creator et directeur général de Origifool, société californienne mais basée à Bordeaux qui produit des vidéos en stop motion pour les réseaux sociaux. Alors Fabien Gagnot, vous lancez les inscriptions pour la deuxième édition des Snackable Content Awards. Qu'est-ce que c'est que ce format ?
Alors ce format, déjà c'est court, ça se snack. Voilà. Ouais. C'est vraiment des formats qui sont pensés pour un usage en mobilité, sur le téléphone, pour des gens qui, voilà... Un petit coup d'œil, je vois une publicité, qu'est-ce que ça doit être cette publicité en quelques secondes, qu'est-ce que j'arrive à faire passer. Donc c'est vraiment une nouvelle forme un petit peu d'expression publicitaire de format court. Voilà.
Alors Yann Padjam, on peut créer des choses comme ça quand on a juste quelques secondes pour faire passer un message ?
Tout à fait, et je crois qu'en plus, souvent quand on est limité dans ce qu'on a comme temps ou format, ça nous pousse à faire des trucs plus intéressants, plus dynamiques que si on a deux heures à raconter une histoire. Donc en fait, ça crée parfois de contenu qui est même mieux.
On parle de combien en durée, là, en moyenne ?
On parle de 6, 10, on peut considérer jusqu'à 15 secondes, mais pas plus.
Moi, un long métrage, c'est 30 secondes. Là, c'est vraiment du grand...
C'est vrai ?
D'accord. Là,
Frédéric ?
Là, c'est Bénure. Mais justement, par rapport à ça, on est dans une période où on parle de brain content absolument tout le temps. Donc, ma question, en fait, c'est est-ce que le snackable content, c'est le contraire du brain content ou est-ce que c'est une expression particulière de cette forme de publicité qui consiste à mettre le produit dans l'histoire.
Je pense que brand content, on met plein de choses dedans. J'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même au très long ou au très court.
Celui du milieu,
il a tendance à disparaître. Donc on peut raconter des très belles histoires. On a plein d'exemples en France des agences qui font des super trucs en une minute trente. Le snackable content, c'est pas ça prend la place de quelque chose. C'est juste c'est adapté à l'usage du smartphone, d'une consommation en mobilité, d'une consommation où on peut tout skipper. Donc il y a besoin d'être court, percutant, en très peu de temps pour faire passer un message.
Alors l'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'on place le produit à l'intérieur de ces 15 secondes et qu'on le montre d'une façon ou d'une autre.
Parfois, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de clients en France et surtout aux États-Unis. Et il y a des clients qui veulent vraiment vendre leur bouteille de shampoing, donc on le voit. Et puis après, il y a des clients où en fait, c'est des campagnes où en fait, on voit même pas de produits. C'est pour raconter des histoires parce que maintenant, les brands, ils ont leur page Facebook, Instagram, Twitter, et en fait, ils ont toute leur communauté qui leur suit. Et parfois, c'est juste du contenu pour raconter des histoires et avoir du contenu intéressant, des séries, des trucs comme ça. Et donc, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment le Wild West de créativité en fait.
Et l'enjeu, c'est de tenir les gens au-delà des 3 secondes, des fameuses 3 secondes
même,
de Facebook.
Même pas, le but, c'est d'être sûr que les gens ne switchent pas avant une seconde et demie. Vous avez vraiment que quelques secondes.
Il y a une recette
pour attirer l'attention.
C'est faire arrêter le pouce dans sa course frénétique sur le smartphone. C'est un peu ça l'enjeu.
C'est que l'image choc, elle doit être, paf, tout de suite début.
C'est pas forcément choc, mais il doit y avoir quelque chose de visuel fort, parce que souvent c'est sans le son. Donc ça c'est une évolution. Et dès le début il doit y avoir une accroche forte, forcément. Après il y a plein de recettes. On peut mettre plein de choses dans 6 secondes. En fait 6 secondes c'est assez long quand on les regarde comme ça. Et on peut raconter des tas. Non mais c'est vrai. C'est juste une nouvelle forme d'écriture. Mais il y a plein de choses à dire dans 6 secondes. Enfin, tu le diras mieux mais...
Oui, on peut tout raconter et puis après, il faut dire aussi que souvent, comme sur Instagram, il y a les vidéos qui jouent en loop, même si c'est que 6 secondes, souvent les gens, ils vont regarder 4-5 fois à la suite. Et donc en fait, c'est une façon de raconter qui est complètement différent à la façon linéaire de raconter des histoires traditionnelles. C'est une autre forme de raconter des trucs, de faire des œuvres artistiques visuelles sur les vidéos. Donc c'est...
Et comment on travaille là-dessus? Vous avez une feuille de route avec une marque qui vous dit moi je veux parler de ça. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus?
Ça dépend. Il y a un peu de tout. Moi, j'ai des clients. J'étais le producteur de vidéos pour Sony, pour tout ce qui était Sony Electronics pendant 3 ans. Et eux, c'était carte blanche. Ils voulaient juste du contenu, donc je faisais comme je voulais. Après, il y en a d'autres qui disent on a ça à passer parce que c'est Noël et on veut vendre ça. Et donc vraiment, il y a
ça fonctionne comme de la création publicitaire classique. Hein. C'est simplement le format qui est différent, mais il peut y avoir un brief très précis. Voilà ma problématique. Qu'est-ce qu'on fait d'une agence, d'une marque.
Mais ça doit coûter quand même, j'imagine, moins cher à produire qu'un long métrage. Ou c'est pas forcément le cas?
Je crois que le prix, ça peut coûter cher, ça peut coûter pas cher. Ça dépend de la façon dont on le fait et la façon dont on le pense. En fait, c'est plutôt, il faut en produire de plus en plus des contenus pour les marques. Oui. Elles ont le même budget. Donc comment on fait? Donc il faut toujours faire la pub télé, mais il faut produire des trucs de qualité pour mettre sur Instagram, etc. Donc il faut plutôt revoir la façon de produire et se dire on va plutôt directement à la source. The Source étant la société qui organise les 5 Apple Connect Awards. Et Yann, par exemple, c'est un artisan en fait. Hein. Donc c'est juste qu'on saute des étages et on va directement à la source. Donc les prix, ça peut aller de 500 à 50 000 euros. Il n'y a pas de... Ça dépend ce qu'on met dedans.
C'est pour les prix, même s'il y a une vidéo qui coûte cher parce qu'il y a beaucoup de production. La différence, c'est que moi, avant, je faisais des productions plus traditionnelles. Et là, vous avez une équipe de 10 personnes, vous avez des réunions tout le temps. Et là, vous travaillez surtout ou souvent avec des artisans qui sont tout seuls avec une petite équipe. Donc, il y a moins de gens et on est plus efficace. On perd moins de temps à faire des réunions, des révisions. Et donc, ça coûte moins cher à la boîte parce que vous perdez moins de temps.
Et Snackable Content, c'est finalement un format voilà court, mais aussi une philosophie de, je pense, de production agile, production courte, circuit court.
Et pour revenir à ce que disait Frédéric, je sais pas s'il y a une recette, mais en tout cas moi j'ai regardé un peu les vôtres, Yann, avant, et en fait c'est hyper addictif. En fait on reste coaché, on veut toujours voir le truc d'après, et c'est ça en fait.
C'est ça l'ironie, c'est qu'à la fois c'est très court, mais à la fois on passe des heures. C'est un peu le binge watching, comme on dit en anglais, où en fait on passe des heures à regarder tout ça.
Mais les clients ils pigent. Je veux dire par là que les agences se plaignent tout le temps. Que les clients demandent plus gros le logo, enfin bon, je veux dire un discours de marque, ils veulent voir leurs produits et tout.
C'est ça qui est bien pour moi, ce qui est bien en tant que créateur, c'est de travailler avec le Source, par exemple. Il y a Fabien qui me contacte en disant j'ai un client. Okay. Et donc mon rôle, c'est de créer le contenu. Et Fabien, il est là pour me protéger, pour expliquer au client, écoute, lui, il sait comment faire. Il va gérer ses questions. Donc en fait, c'est une façon assez efficace de créer du contenu.
Tout à fait. Et je pense que les agences, les marques aussi, en tout cas, c'est un des objectifs de ce concours, en fait. C'est de promouvoir ça comme un vrai art et comme un vrai exercice publicitaire pour intéresser les marques et aussi les agences qui les créatifs en agence sont drivés par d'autres choses. Demain, il y aura sans doute un lion à Cannes qui va récompenser ce type de format. On attend ça, d'exciter autour de ce format-là, parce que c'est une vraie discipline qui peut être très intéressante.
Merci beaucoup Fabien Gagneau. Donc je rappelle que vous êtes le fondateur de The Source et des Snackable Content Awards, et Yann Padjam, vidéo content creator et directeur général d'Origifou.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Avec cette semaine, Flora Bonvicini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable communication et marketing de TNP Consultant, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les transformations digitales, réglementaires et opérationnelles des entreprises. Qu'est-ce que c'est que votre métier concrètement? Parce que c'est peut-être un peu obscur pour les gens qui vous connaissent pas.
Mon métier, c'est de renforcer la visibilité, la notoriété et l'image de marque de TNP, à la fois en impliquant les acteurs internes et externes à l'entreprise, en France et à l'étranger, pour un objectif, être reconnu comme leader de la transformation.
Donc je pensais, quand on parle de transformation digitale, c'est vrai qu'on pense tout de suite à des gros cabinets type Accenture. Comment est-ce qu'on fait pour exister quand on est indépendant par rapport à de gros mastodontes comme ça?
Alors vous faites bien de poser la question. Notre objectif, c'est de venir complètement concurrencer ces cabinets. On a une taille qui est beaucoup plus petite,
évidemment.
De cabinet. On est 450 dans le monde et 350 en France. Notre ADN, il se base sur 3 piliers. On est hybride. On est à la fois métier et techno, ce qui n'est pas le cas en fait de tous les acteurs du conseil en France. Nous sommes multisectoriels, on intervient à la fois dans le secteur de la banque, de l'assurance et de la protection sociale, de la santé et du secteur public. Et nous sommes aussi multispécialistes, nous sommes capables d'accompagner à la fois nos clients sur les aspects digitaux, de transformation de la DSI, de parcours client, de data management, de privacy et de conformité et d'audit.
Alors quand vous vous adressez à ces entreprises, comment est-ce que vous allez les séduire? Quels sont les canaux de communication que vous privilégiez par exemple?
Alors en termes de canaux, j'ai envie de vous dire qu'on est et sur tous les fronts, Aurélie. On a un énorme volet événementiel chez TNP. On organise une vingtaine de matinales par an qui sont directement liées aux problématiques des entreprises.
D'accord.
Sur divers sujets tels que l'IA au service des DSI, l'agile à l'échelle qui concerne notamment les DSI aussi, tout ce qui est parcours client, notamment dans les banques. Et TNP a créé en 2015 le programme Histoire de demain qui s'articule autour de deux thématiques, le digital et le réglementaire. Les Histoires de demain, pour vous donner un ordre d'idée, c'est deux événements par an. Ce sont deux think tanks et ce sont également deux livres blancs. Et pour aller un cran plus loin, le dernier événement Histoire de demain digital a réuni 290 participants autour de deux tables rondes.
Et donc c'est vraiment l'événementiel qui est au cœur un peu de votre stratégie de
communication. C'est au cœur. Ce pilier événementiel est aussi complémentaire avec la partie digitale. Aujourd'hui, on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, à savoir Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram également. Et nous avons aussi une chaîne YouTube. On essaie vraiment de démultiplier le contenu parce que le contenu, on va dire que c'est le dénominateur commun de toute la stratégie de communication et qui va se répartir sur les différents piliers. Nous avons également un blog sur lequel on incite nos collaborateurs et on les met en lumière. Et aussi cette mise en lumière de nos missions, de notre expérience et de notre ADN, à savoir multisectoriel et multispécialiste. Nous le transmettons à travers effectivement les formats vidéo, le blog et aussi les dossiers TNP que nous avons créés cette année et qui sortent de manière trimestrielle.
Merci beaucoup Flora Bonvicini. Je rappelle que vous êtes responsable communication et marketing de TNP Consultant. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.